Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous continuons de travailler dans notre catéchisme autour de Jésus. Nous en étions arrivés, Jésus est le temple, Jésus est la loi, c'est-à-dire dans le catéchisme, dans les paragraphes autour de 586, le dernier qui nous a un peu focalisé, où nous avions pu dire que la loi est importante, la loi est bonne, mais le but n'est pas d'être en règle avec la loi, le but est d'accueillir la grâce de Dieu dans cette relation qui s'établit grâce à la loi.
Oui.
Or, je me rends compte que, si on continue après au 587, paragraphe 587, va dans la suite, 588, notamment un mot qui traîne dans nos têtes, qui traîne dans les évangiles, si je puis parler comme ça, les pharisiens. Et nous avons une idée des pharisiens comme des gens très réglo, tellement réglo sur la loi qu'ils ne se correspondraient pas à ce qu'on disait, accueillent-ils la grâce? Est-ce que nous ne leur faisons pas porter une réputation qui est un peu trop forcée?
Oui, c'est un peu indu de caractériser les pharisiens. Les pharisiens, étymologiquement, cela signifie perushim, ceux qui se sont séparés du peuple pour la loi, pour mieux exercer la loi. En soi, la démarche peut être effectivement orgueilleuse, mais aussi sincère, un peu comme un religieux, une religieuse qui se sépare du monde pour mieux être au Christ. Donc il y a quelque chose de très louable, je dirais, dans l'élan du pharisien. Et on n'est pas étonné de voir dans le 575 que nous avions passé un petit peu rapidement, que le catéchisme nous dit « Les pharisiens ne furent pas uniquement polémiques, ce sont des pharisiens qui le préviennent du danger qu'ils courent. » Effectivement, ce sont eux qui vont au-devant de Jésus pour lui dire que Hérode veut tuer Jésus. C'est dans Luc 13, 31. « À cette heure même, s'approchèrent quelques pharisiens qui lui dirent « Pars et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Et donc, d'une certaine manière, ils font un acte de charité vis-à-vis de Jésus. Ils l'avertissent du danger. Et puis Jésus va manger chez les pharisiens. On voit aussi, dans une certaine occasion, dans Saint Marc, une discussion autour du commandement le plus important, le premier des commandements. Et on sait par Matthieu que ce scribe est en fait aussi un pharisien. Et on met en rivalité le premier des commandements qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et le commandement d'aimer le prochain. Et ce scribe dit que ces deux commandements sont uniques. Et il ajoute que le fait d'aimer Dieu de tout son cœur et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et ça, c'est pas marqué directement dans la loi. Et donc, il fait une remarque très intelligente. Et Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, dit l'évangile de Marc au chapitre 12, lui dit même, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et nul n'osait plus l'interroger. Donc il y a des moments très positifs avec les pharisiens, et nous savons aussi que saint Paul n'a pas hésité à revendiquer son appartenance au clan des pharisiens, puisqu'il dit qu'il est hébreu, fils d'hébreu, et pharisien, et qu'il a exercé la loi d'une manière exacte, le plus clairement possible. C'est au moment où il est accusé à Jérusalem. Et cette remarque montre bien que être pharisien, c'est dans l'estime des élites, en tout cas peut-être pas des sadducéens ou des membres qui dirigent le temple, mais au moins du peuple, on les estime parce qu'ils vivent la loi, je dirais, à fond. Et cela relève donc d'un effort qui est remarqué par l'Évangile. Cependant, comme nous le disions au début, il y a la tentation chez le pharisien, c'est de s'estimer plus grand que les autres. Et c'est ce que dit Luc, chapitre 18, verset 9, ceux qui se flattent d'être des justes et n'ont que mépris pour les autres. Et c'est là le danger de la séparation, le danger de la mise à part par rapport au peuple, qui risque effectivement d'enfler la personne si elle se regarde elle-même, au lieu d'être, de continuer avec un cœur de miséricorde. Et c'est pour cela que Jésus n'hésite pas à dire qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Donc même le pharisien doit se reconnaître pécheur pour être appelé et pour recevoir la miséricorde de Dieu. Et donc on comprend très bien qu'il y a un double positionnement de Jésus vis-à-vis des pharisiens. L'un, je dirais, positif, parce qu'ils veulent faire la volonté de Dieu. Et nous sommes tous, nous-mêmes, appelés à la faire, cette volonté de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est même dit en Hébreux 5, 9, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est cause du salut que vis-à-vis de ceux qui lui obéissent. Donc il y a vraiment un appel à faire la volonté de Dieu, et ne pas dire seulement « Seigneur, Seigneur », mais faire la volonté de Dieu. Donc il y a un quelque chose de positif, mais il y a un côté négatif qui est fustigé par les évangiles, c'est cet orgueil de celui qui se met à part au détriment des autres. Et donc c'est finalement ce versant négatif pécheur qui a été retenu, de telle sorte que quand vous cherchez dans le Petit Robert ou dans un autre dictionnaire le mot pharisien, vous voyez le côté négatif qui ressort. Le pharisianisme, c'est faire semblant finalement d'être juste et en fait par derrière d'être un pécheur. Et donc on comprend que le mot soit resté, mais c'est au détriment, si vous voulez, de l'histoire et au détriment de la lettre des évangiles.
Il reste que, effectivement, donc on voit un côté positif, côté négatif de cette, je ne sais pas s'il faut dire un statut de pharisien, c'était la fonction du pharisien, je ne sais
oui,
pas comment il faut l'appeler.
Ou la secte, on la peut secte. Presque même dire une secte juive, parce que bon, il y avait différentes sectes dans le judaïsme.
Oui. Oui. Il y a cette mise à part qui en soi est bonne, elle est belle, et effectivement, toi et moi, frère Édouard, nous qui sommes des religieux, il y a quelque chose de cela, tu le disais, de la mise à part. Mais quand on est dans l'extrême, quand on le vit d'une manière qui n'est pas sensée, qui n'est pas réglée sur Dieu, j'ai envie de dire, sur ce que le Christ attend de nous, ça pose problème. Dans le côté négatif, dans l'Évangile, à plusieurs reprises, et on l'applique, ça se trouve appliqué à certains moments à un ou plusieurs pharisiens, où il est dit, pour le mettre à l'épreuve, ils lui posèrent une question. Faut-il entendre cela comme effectivement une expression d'hostilité, ou est-ce que c'est une sorte de débat assez naturel dans la vie des intellectuels ou des croyants un peu élites de ce moment-là ?
Alors, c'est vrai que ça fait partie de la tradition juive de offrir des débats, et le Talmud est finalement grand livre de la tradition juive auquel la plupart des communautés se réfèrent pour ainsi vivre plus pleinement le judaïsme, eh bien, c'est un livre de débat. Et même parfois on est surpris parce qu'il n'y a pas de conclusion. C'est-à-dire on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'il faut penser. On vous laisse sans conclusion. C'est-à-dire on a Rabbi un tel qui dit cela, Rabbi un tel qui dit cela, Rabbi un tel qui dit cela, et puis terminé. Et puis on vous laisse. Alors donc c'est le commentateur final qui lit ce texte, qui doit porter lui-même la conclusion vis-à-vis de son public autour de lui. Donc c'est très intéressant comme forme, je dirais, de vie intellectuelle. Oui. Alors, on peut penser que Jésus rentre un peu, lui aussi, dans ses questionnements, mais il y a, à partir de la mort et la résurrection de Lazare, une certaine opposition vis-à-vis de Jésus. Alors on ne peut pas savoir évidemment entre les synoptiques et l'évangile de Jean quand exactement cela advient. Dans l'évangile de Jean, c'est au moment de la résurrection de Lazare. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a une opposition très nette et une volonté de le tuer. Donc il y a quelque chose qui a grandi par rapport à ce qui s'est passé. Mais on le sent déjà par exemple dans le chapitre 9 de Saint Jean, au moment de la guérison de l'aveugle-né. L'aveugle-né qui se reconnaît aveugle, eh bien, est guéri, alors que les pharisiens qui se trouvent avec lui et qui entendent ses paroles déclarent à Jésus « Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ?» Et Jésus leur dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites « Nous voyons, votre péché demeure ». Et c'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'ils se croient en fait indemnes du péché parce qu'ils pratiquent la loi et cela leur donne le sentiment d'être vraiment indemnes de la nécessité du salut. Or Jésus est venu apporter le salut et tous les hommes sont pécheurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Jésus, dans le fond, le rapporte sans cesse dans ses texte et dans ses paraboles, si nous ne sommes pas dans cet esprit, eh bien, on perd, d'une certaine manière, le rapport au salut. Jésus a scandalisé parce qu'il s'est aussi identifié dans cette conduite miséricordieuse envers les pécheurs avec l'attitude de Dieu lui-même à leur égard. C'est-à-dire que par derrière, ce qui va être l'objet de sa condamnation future, c'est de dire qu'il se prend pour Dieu. Donc les pharisiens leur renvoient à Jésus la balle en disant « Vous nous accusez de nous dire sans péché, mais vous, vous vous prenez pour Dieu puisque vous pardonnez les péchés comme Dieu. » Donc on sent bien la montée du dialogue et finalement l'accusation de blasphème qui va advenir au moment du procès final en face d'Hérode et plus tard en face de la cour, Caïphe, Anne et puis finalement Pilate, c'est cette accusation contre lui de prendre la place de Dieu.
Et oui, la fin ne peut se faire que dans l'acte de foi véritable.
Oui, voilà, exactement.
Merci frère Édouard.
Merci beaucoup.